pilote de l'Alaska par K.A. Schwarzkopf, quatrième cassette, deuxième face, page 134. John, lui, se trouvait devant un autre genre de problème. La tour de nuages grossissait. Dans quelques instants, son ombre tomberait sur l'avion. Cela signifiait une forte diminution de lumière dans la cabine et quelques secondes après, la danse ensorcelée. Il jeta de nouveau un regard dans le rétroviseur. La situation semblait tragique. Ils entraient dans l'ombre. Après le soleil aveuglant, on se serait cru dans un tunnel. Le docteur poussa un cri. « Que se passe-t-il, John? Je ne vois plus rien !»« Un gros nuage, docteur. Il faut le traverser. Dans quelques instants, il y aura également des trous d'air. Pouvez-vous interrompre l'opération pendant 6, 7, peut-être 8 minutes? Après, nous serons de l'autre côté. » « Impossible, John. Il faut que je continue. Si je m'arrête un seul instant, ce gosse va mourir. Tourne le zinc. Il me faut du soleil immédiatement. C'est justement le moment critique. Très critique. » « Compris. Tenez-vous bien. On va pencher un peu. » John inclina l'aile gauche et vira. Au bout de 30 secondes, ils étaient de nouveau dans le soleil. Il mit le cap sur le sud et resta aussi près que possible de l'immense tour de nuages. Il regardait sa montre, calculant le trajet qui lui restait à parcourir. Il lut le niveau d'essence et secoua la tête d'un air inquiet. « Faut-il rester encore longtemps au soleil, docteur ? Comptez une demi-heure, peut-être 40 minutes. On peut peut-être contourner ce nuage ? Impossible, docteur, ça nous prendrait trop d'essence. Dans 20 minutes au maximum, il nous faudra reprendre notre direction, sans quoi nous n'arriverons jamais à Anchorage. 20 minutes, pas une seconde de plus. Et il n'y a pas un endroit où nous puissions descendre prendre de l'essence? Malheureusement non, docteur. Pas la moindre possibilité. Mauvais temps partout. Seule la station de radio d'Anchorage peut nous guider pour descendre. Allons-nous réussir, docteur? Je vais essayer. Une opération comme celle-ci, c'est très risqué. Je vais essayer. Nels se sentait envahi par une terrible torpeur. Sa tête bourdonnait et tout dansait devant ses yeux. Il s'appuya contre la paroi en gémissant. Mais qu'as-tu, Nels? Assieds-toi un petit moment. C'est l'éther. Ne t'endors pas. J'aurai besoin de toi dans quelques minutes. Assieds-toi. Nels tomba lourdement dans un fauteuil. Comment le docteur avait-il la force de continuer? Il opérait depuis bientôt une heure. Nels se souvint du jour où il était allé chez l'horloger d'Anchorage. Il avait suivi, émerveillé, les doigts habiles qui maniaient la petite pince dans un monde lilliputien de roues et de dents. Combien plus sensibles et compliqués étaient les rouages du corps humain. « J'ai besoin de toi, Nels. Peux-tu venir maintenant ?»« J'ai besoin de toi. » Nels sentait une petite bulle de fierté dans sa poitrine. Le vertige et la fatigue s'étaient envolés. On lui donnait de l'importance. Un vieillard comme lui pouvait encore être bon à quelque chose. « Je viens, docteur. Ça va bien maintenant. »« Donne-moi une pince plus grosse. Celle-ci, justement. Et d'autres compresses. »« Parfait, parfait. » « Ça commence à aller mieux. Comment est le pouls ?»« Un peu plus rapide. »« De combien ?»« De 5 pulsations par demi-minute. »« Bien, Nels. Le plus difficile est fait. »« Tu peux ranger le bistouri, je n'en ai plus besoin. »« Donne encore des compresses. »« Merci. »« Dans 5 minutes, » dit John. « Il faudra entrer dans le nuage. Ça ira, docteur ?»« Ça ira, John. » Nous sommes prêts à fermer dans un instant. Nous sommes prêts à fermer, répéta Nels, très fier de l'importance qu'on lui accordait. Le fil et l'aiguille. Le fil et l'aiguille, voici, docteur. Tu peux enlever le masque. Donne-moi 3 grandes pinces. C'est ça. Maintenant, des loopings si tu veux, John. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Le reste, regarde l'hôpital. Les heures qui vont venir nous montreront si l'opération est réussie. Merci de votre aide. Merci Nels et merci John. Pour toi, le plus difficile reste à faire. Les nuages les engloutirent. Des voiles de brouillard léchaient l'avion. Le Junker sursauta. Il était soulevé par les bras d'un lutteur invisible. Il s'engagea dans la bataille. Avec ses ailes vigoureuses, il parait aux attaques. John sentait le manche résister entre ses mains. L'avion frémissait. Et dire qu'il existe des gens qui prétendent qu'un avion n'a pas de vie. Ah, ce ne sont certainement pas des pilotes. Ah non! Brusquement, les bras invisibles lâchèrent prise. La lumière revint. Ils se trouvèrent de nouveau en plein soleil. Devant eux, loin, là-bas, sous un couvercle de nuages, encore Edge. John regarda sa montre. Il allait gagner. Il avait assez d'essence. Et le gamin, sur la table d'opération, dormait tranquillement. Le voyage n'avait pas été vain. La peine de mort. L'automne avait fait son apparition. Les bouleaux brillaient comme des flambeaux. Les hauts plateaux étincelaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et les marais brun dorés étaient bordés de rouge vif. Chaque jour, la calotte de neige du mont McKinley descendait un peu plus bas. Des triangles d'oies sauvages commençaient leur migration vers le sud. De la forêt montait une odeur lourde d'humidité et de décomposition. Partout, on se préparait à retrouver l'hiver, cet hiver trop long et trop rude. C'était aussi l'époque de l'amour chez les élans, et leur beuglement rauque et menaçant remplissait les longues soirées. Il arrivait de temps à autre qu'un ours solitaire se mêlât au concert. Les autres voix se taisaient alors. Elles respectaient la colère du roi de la forêt. Une grande agitation régnait à McGrath. Des bruits de violentes discussions montaient du bureau de Joseph Grumman dans la baraque numéro 2. L'élite du village était assemblée autour de la grande table. Les hommes semblaient avoir pris, eux aussi, leur teinte d'automne. Leurs tignasses et leurs barbes flambaient, hirsutes et provocantes comme des crêtes de coq. John et Nels étaient là. Ils venaient de rentrer de leur long voyage avec le docteur Thurman. Barter Hayes, le petit boutiquier, criait plus fort que les autres. Mais il faut dire qu'il était soutenu par son épouse légitime, Viola. Assise à ses côtés, elle entourait de ses gros bras la nuque frêle de son mari. Toute sa personne était mobilisée pour défendre son époux. « Et je vous dis, criait-il, si ça continue, je vais exiger une inspection de ce terrain d'aviation. Je n'ai nullement l'intention de tolérer qu'un élan déambule en toute liberté sur les pistes et dérange les gens. Si vous ne le tuez pas d'ici une heure, je télégraphie encore Edge. C'est mon dernier mot. » C'est notre dernier mot, lança Viola. La longue silhouette maigre de Hassel se détendit comme un ressort. « Rappelle-toi ça, Barter, siffla-t-il. Tu n'auras pas la communication avec Anchorage par ma radio. William est un élan noble, un élan intelligent, un élan qui a de la personnalité. Il y a 3 ans qu'il est ici, et nous le considérons comme faisant partie de la famille. Et si on tue quelqu'un de la famille ici à McGrath, ça ne sera pas William. » La rage fit pâlir Barter Hayes jusque sous sa barbe mal rasée. « Vous l'avez entendu ? Vous l'avez entendu ? » cria-t-il. « Voilà que ce bandit avoue sans détour qu'il veut me tuer. Ah, il y a longtemps que je m'en doutais. Tout le monde a entendu ce qu'a dit Hassel. Tout le monde l'a entendu. Tu iras en prison, car il y a des témoins et... » Hassel pointa le menton comme une flèche et répondit d'un ton acerbe. « Je n'ai rien dit de semblable, Barter. J'ai seulement fait savoir que si quelqu'un doit être tué, ce ne sera pas William. Mais s'il te plaît de l'interpréter autrement, à ton aise, moi je ne t'en empêche pas. » Joseph Grumman asséna un violent coup de poing sur la table. Silence, hurla-t-il. Tenons-nous-en au fait. Nous sommes ici un tribunal et l'élan William est l'accusé. Malheureusement, il ne peut pas comparaître en personne. Mais Hassel va le représenter. Barter Hayes sera le procureur général. Qu'on nous répète l'accusation sans esclandre ni digression. Barter Hayes se frotta le menton et lance un regard furieux en direction de Hassel. Voilà comment ça s'est passé, dit-il. Ma femme, l'ai-je... Il perdit un instant le fil et recommença. Donc, Viola et moi, nous sommes allés dans la forêt cueillir des champignons. En revenant, nous avons emprunté la piste numéro 1, qui est le seul chemin praticable de ce côté-là, tout le monde le sait. Nous nous promenions au soleil, tout heureux, quand brusquement, ce grand bandit d'élan arriva au galop. Monsieur le juge, je proteste. C'était Hassel qui intervenait. Eh bien, Hassel, de quoi s'agit-il? L'accusateur n'a pas le droit d'injurier l'accusé. La protestation est acceptée. Continue, Barter. Barter Hayes tremblait de tous ses membres. Il avait de la peine à reprendre son souffle. Ses lèvres remuèrent plusieurs fois sans qu'aucun son n'en sortît. Il bégaya. Le voilà donc qui arrive, cette espèce d'élan, à toute allure, vers nous. Viola crie, gare à toi, Barter. Est-ce que je me trompe, Viola? Non, c'est exactement ce que j'ai crié. Chaque syllabe est vraie, certifia Viola. Barter continua. Il arrive, tête baissée, et j'ai sauté derrière Viola. Barter se mordit les lèvres. Un rire sonore et impitoyable montait de l'assistance. je veux dire que j'ai sauté derrière Viola pour pouvoir plus facilement la jeter sur le côté à l'approche de l'étang furieux. N'est-ce pas vrai, ma bien-aimée? Je crois, c'était probablement comme ça. En tout cas, quelque chose de bien ressemblant. Mais peu importe, mon petit vieux, ce que tu as fait de moi, parle plutôt de l'élan. Eh bien, j'y arrive. William, avec ses cornes, m'a donné un coup sur le bras, de sorte que le panier plein de champignons a volé en l'air. Et le bras de Viola a été touché aussi. Nous avons des bleus aujourd'hui, des gros bleus douloureux. Regardez, montre ton bras, Viola. Deux bras de forme et de calibre très différents s'allongèrent. Les bleus, par contre, se ressemblaient beaucoup. Ils étaient si petits qu'il aurait été impossible à un expert de les qualifier de bleus. Ce n'étaient en fait que de petites traces rouges. L'assistance examina les petites traces rouges avec intérêt. Nels toucha avec précaution celle de Barter et commenta d'un ton ironique. « Chez nous, en Suède, des blessures aussi extraordinaires auraient été immédiatement exposées dans un musée. Jamais je n'en ai vu d'aussi terrible. » Barter retira son bras et continua d'une voix coléreuse. « William, nous ayons donc flanqué des coups de corne et ayant renversé tous nos champignons, tourna, comme qui dirait son postérieur de notre côté et nous donna des coups de pied. J'en ai reçu un à l'épaule et j'ai un bleu gigantesque. Regardez vous-même. » « Arrêtez, arrêtez !» cria Joseph Grumman. « Pas de scène de déshabillage dans la salle du tribunal. Nous te croyons, Barter Hayes, car nous avons vu le bleu de ton bras. William a-t-il disparu après cela ?»«
Oui, » dit Barter, « il est parti. Je pense qu'il en avait assez fait. Nous avons eu à peine la force de nous traîner jusqu'à la maison. » Si deux peaux rouges ne nous avaient pas aidés à nous remettre sur pied, nous y serions probablement encore. Les peaux rouges ont du reste été témoins de toute la scène. Ils sont devant la porte de la baraque et on peut les interroger.
Je les ai interrogés, dit Alan. Leurs témoignages correspondent à vos déclarations. Le plaignant a-t-il quelque chose à ajouter?
Pas pour l'instant, dit Barter. Mais je répète,
ça va. Écoutons maintenant les arguments de la défense. Hassel se leva très lentement. Cela mettait en valeur sa haute taille. Ses lèvres minces esquissaient un sourire amusé. Il s'inclina légèrement et sa voix avait un accent coupant et menaçant quand il commença. Monsieur le juge, messieurs les jurés, madame, monsieur. Le dernier salut était adressé à monsieur et madame Barter Hayes. C'est en qualité d'élan que je tiens à vous exposer les arguments suivants. Voici 3 ans que je garde le terrain d'aviation de McGrath sans avoir encouru la moindre critique. Pendant cette période, il m'est arrivé plusieurs fois de mettre en fuite des ours et, bien entendu, jamais un caribou n'a osé montrer son mufle sur une piste de décollage. J'ai toujours maintenu un ordre parfait. J'ai soigneusement inspecté chaque avion étranger qui devait atterrir. Comme responsable de la circulation sur le terrain, je ne peux me comparer qu'à mon ami, le télégraphiste James Hassell. Un petit ricanement se fit entendre. Hassell continua après une légère inclinaison de tête. « Je suis profondément attristé d'apprendre que ma sollicitude pour ce terrain, mon zèle pour maintenir un ordre impeccable, ont été mal interprétés par des gens peu compréhensifs. Le cas qu'on vient de vous soumettre en est la preuve. Sortant de la forêt et apercevant les deux tourtereaux en promenade, mon intention n'était nullement de les attaquer. La raison qui me fit accourir à toute allure vers eux était, monsieur le juge, tout autre. C'était l'odeur des champignons vénéneux. Une odeur que mes narines sensibles perçoivent à des kilomètres. Monsieur et madame Hayes avaient des champignons vénéneux dans leur panier. Mon unique préoccupation était de faire disparaître au plus vite cette dangereuse cueillette. Si, sans le vouloir, j'ai heurté des bras trop vulnérables, je le regrette très sincèrement. Je regrette aussi que mes pattes de derrière, en voulant disperser les champignons, aient effleuré l'épaule de M. Barter Hayes. À côté de ces petits bobos, un seul fait important demeure. Je leur ai sauvé la vie. Les cornes humblement baissées, j'implore monsieur le juge et lui demande de ne pas donner suite à l'accusation. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Silence total. Personne n'eut même l'idée de rire. Jamais il n'aurait cru à seul capable d'un tel discours. Certes, il était connu pour être un farceur génial, mais jamais auparavant on n'avait assisté à une pareille séance. Joseph Grumman rompit le silence d'une voix bourrue. Les membres du jury vont se retirer pour délibérer. Vous pouvez choisir l'endroit vous-même, mais ne soyez pas trop long. Les personnes présentes se regardaient. Puis, les plus passionnés par l'affaire se levèrent. Alan, Aylan, John et Nels. Ils se rendirent fébrilement dans la cuisine contiguë et s'y installèrent. Mes amis, ça me paraît être une histoire de fou, dit John. Peut-être, mais reconnais que la plaidoirie de Hassell était magnifique, dit Nels en riant. J'ai été assigné une fois devant le tribunal de Fairbanks pour avoir flanqué un coup de poing à une sale caboche, mais personne n'a plaidé pour moi. Je vote pour que William soit déclaré innocent. Alan se tortilla. Cette affaire n'est pas aussi simple qu'elle le paraît, dit-il sèchement. Ce n'est malheureusement pas la première fois que William a des caprices semblables. En automne surtout, il devient dangereux. Plusieurs fois, nous avons projeté de nous en débarrasser. Mais à cause de Hassell, nous n'avons pas pu nous y décider. Cette dernière incartade, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si nous n'agissons pas, Barter nous dénoncera à l'inspecteur de l'air d'Anchorage et la police viendra exécuter la besogne pour nous. Je sais que Grumman est de mon avis, bien qu'il ne puisse s'empêcher de taquiner un peu Barter Hayes. Moi, je suis de l'avis d'Alan, dit Aylan avec un soupir. Je dois pourtant reconnaître que ce sera dur de tuer William. Je me demande qui de nous pourra se décider à le faire. Moi, je sais, dit John. Barter Hayes le fera lui-même. Les autres se regardèrent étonnés. Barter n'a jamais tenu un fusil de sa vie, objecta Aylan. Mais c'est justement pour ça, dit John en riant. Venez, rentrons au tribunal. Le jury est bien d'accord, n'est-ce pas? Joseph Grumman ne put dissimuler un large sourire quand John lui chuchota à l'oreille la décision du jury. Barter Hayes s'en aperçut et son regard trahit une certaine méfiance. Honorable assemblée, en tant que juge, il est de mon devoir d'annoncer l'arrêt suivant. On ne pourra pas se pourvoir en cassation, veuillez vous en souvenir. Chacun retenait sa respiration. Tous les regards étaient dirigés vers Joseph Grumman. Le jury a trouvé l'accusé coupable. à celle bondie. Mais ce n'est pas juste, cria-t-il, il n'y a aucune preuve du crime. Le crime est prouvé, cria Joseph Grumman. Le verdict a été prononcé à l'unanimité, c'est la peine de mort. Je prie les assistants de se lever. L'étant mâle, William, demeurant au camp d'aviation de McGrath, est condamné à perdre la vie. Il sera passé par les armes aujourd'hui même, samedi 22 septembre, avant 15h, heure de l'Alaska Ouest. Si passé cette date et cette heure, le jugement n'a pas été exécuté, il sera déclaré nul et le condamné sera gracié.
Bravo ! S'écria Barterace. Sortez vos fusils, les gars ! Je me disais bien que vous finiriez par entendre raison. Vous avez trois quarts d'heure devant vous.
Ne me coupe pas la parole, grommela Joseph Grumman. Je n'ai pas encore fini. La dernière volonté du condamné est d'être exécuté par Barter Hayes lui-même et sans le concours de personne d'autre. Le silence était pesant. Barter Hayes s'était effondré. Il avait eu un pressentiment désagréable, mais ça...
« Brigand ! » s'écria-t-il, « ce n'est pas juste. Vous savez bien que je ne sais pas tirer. Vous !»«
Calme-toi, Barter, » dit Viola. « Moi, je sais tirer. »« Permettez-moi de vous rappeler les termes du verdict, » protesta Joseph Grumman. « Seul et sans le concours de personne. »« Tu es une autre personne, Viola. Ton intervention entacherait le jugement de nullité. »
« Tout homme normal peut tenir un fusil, » dit Hassel d'un ton insidieux.
« Je vais te prêter ma carabine, Barter. Elle m'aide toujours dans le mille. »«
N'importe quel sale fusil, mais pas le tien !» siffla Barter entre ses dents. « Je vais vous montrer à qui vous avez affaire, les gars. »«
Veux-tu me prêter ton fusil, Joseph Grumman, ta carabine pour la chasse à l'élan, et puis 5 cartouches ?»«
Prends-la, Barter. Elle est accrochée au mur. » Et les cartouches sont dans ma poche. Je vais charger la carabine et je te montrerai comment on fait pour tirer. Mais attention, pas d'accident, Barter, ni pour toi, ni pour personne. C'est William que tu dois tuer. Souviens-t'en.
Ils quittèrent la pièce et sortirent dans l'air frais et limpide de l'automne. Les couleurs flamboyaient devant leurs yeux. Chaque arbre, chaque buisson, était comme une œuvre d'art éblouissante. Joseph Grumman montra le fonctionnement de la carabine à Barter Hayes. Celui-ci étudia soigneusement chaque manœuvre. Il les refit plusieurs fois. 5 cartouches glissèrent dans l'arme. Lentement, sans se retourner, il se dirigea vers la piste numéro 1. Viola hésita un moment, se demandant si elle devait courir ou non derrière lui. Aylan l'empoigna fermement par le bras et elle se calma. Les poings serrés, Hassel suivait Barter Hayes du regard.
« Bourreau, marmottait-il, si c'est toi qui tues William, je ne te le pardonnerai jamais. »«
Ne vaudrait-il pas mieux que je me trouve dans les parages ?» chuchota Aylan à Joseph Grumman. « Avec un fusil, au cas où il blesserait seulement William. »
« Laisse-le se débrouiller tout seul, Alan. Le destin va nous indiquer l'attitude à prendre envers William. »
J'avoue être perplexe. L'émotion était intense. Hayes était arrivé au milieu de la piste, à l'endroit où d'habitude William sortait de la forêt. Il ralentit le pas, le fusil sous le bras, et obliqua légèrement du côté du fleuve pour ne pas se trouver trop près de la lisière du bois.
« Regarde-moi ça. Il a la frousse, ce sale petit boutiquier !» chuchota Nels à John. « De sa vie, il n'a tenu un fusil. Tu l'as entendu ? Quelle éducation !»
Barter Hayes avait de plus en plus peur en avançant sur la piste numéro 1. Il gardait conscience de sa haine pour William, mais son envie de le tuer avait diminué. Et il sentait le regard des autres et savait que personne ne croyait à son courage, pas même Viola. Et le pire, c'est qu'il n'y croyait pas lui-même. ses pas devenaient de plus en plus pesants et ses pieds lui faisaient mal. Marchant à pas de loup, il cherchait à se faire aussi léger que possible. Au fond, il nourrissait l'espoir de n'être pas vu de William. L'élan avait certes l'oreille fine, mais il lui arrivait parfois de faire de petites excursions à l'autre bout du champ d'aviation. Peut-être sa pensée s'arrêta là. Des branches craquèrent à la lisière de la forêt. Quelques buissons remuèrent et William déboucha, calme et digne, sur la piste d'atterrissage. Barter frémit et sentit son cœur chavirer dans sa poitrine. C'était la fin du répit. Il y avait encore plus de 50 mètres entre lui et la bête majestueuse couronnée de ses bois. Mais les longues pattes de l'animal pouvaient vite supprimer la distance. William ne se souvenait sans doute plus de sa mauvaise humeur de la veille. Il venait, comme d'habitude, dire bonjour, tout simplement. Barter leva la lourde carabine, serra la crosse contre son épaule et porta le guidon à hauteur des yeux. Le canon semblait infiniment long. On aurait dit une flèche droite et luisante qui se perdait dans le lointain avec tout au bout un petit point noir. C'était le point de mire, un minuscule bouton de fer dressé tel un pilote sur la passerelle d'un navire. Quand le bateau échoue, c'est la faute du pilote. Si le coup ratait son but, ce serait la faute du point de mire. Barter baissa la carabine. Ça n'allait pas. Les yeux pleins de larmes, il ne voyait rien. Il les essuya avec la manche de sa veste de cuir et leva de nouveau son arme. Le canon prenait des proportions plus raisonnables. Il avait à nouveau envie de tuer. Fermant un œil, il essaya de viser. Mais le petit bouton de fer était maintenant une mouche. Tantôt elle s'envolait très haut vers la cime des arbres et tantôt elle rampait sur le sol. Elle ne voulait ni rester tranquille ni se laisser attraper. Barter Hay s'acharnait. Dans son application à viser, il oubliait sa frayeur. Ah, enfin, il tenait la cible. Doucement, le guidon descend vers cette tête couronnée de ses bois. Il est au milieu du grand museau brillant. Il tourne en rond autour des narines, monte près de l'œil, puis retombe. Plus bas, plus bas, la saignée de l'épaule, avait dit Joseph Grumman. La saignée de l'épaule, le cœur était là, là. Mais où était donc le petit guidon? Brusquement, tout devint noir devant le canon. L'horizon était fermé comme si le fusil s'était enfoncé dans la terre. Quelle étrange impression! Barter Hayes leva les yeux. Et poussant un cri plaintif, il s'écroula, évanoui. William suçait le canon du fusil, et les hommes accourus pour aider le petit bourreau prétendirent que l'élan riait de tout son mufle. Pilote de l'Alaska par K.A. Schwarzkopf, quatrième cassette, deuxième face, page 151.